Vous êtes sur RTL.
Elle a quand même été massacrée, puisque la fin de sa vie, c'est quand même d'avoir reçu 16 coups de couteau dans la tête. Inutile de vous dire que les parents, lorsqu'ils ont découvert la scène et leur fille, la tête explosée, la réaction qu'ils ont pu avoir.
Bonsoir, un meurtre dans le monde du silence. Il y a 3 ans, Caroline Pierson était retrouvée sans vie dans son appartement de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Cette femme de 47 ans, sourde-muette de naissance, avait été sauvagement agressée. On la retrouvera quasiment défigurée. L'enquête va vite se transporter dans la communauté des personnes sourdes, muettes et malentendantes. Un petit monde qui s'exprime par signes et où tout le monde se connaît depuis la naissance. C'était le cas de Caroline Pierson, qui ne fréquentait que des personnes partageant son handicap. Plusieurs hommes vont alors faire figure de suspect, mais un seul va finalement intéresser les enquêteurs et la justice, Gérald Descamps, un sourd-muet de 46 ans, l'un des amants de la victime. Le 19 novembre, il a été condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de Caroline Pierson, meurtre qu'il nie. Si nous revenons ce soir sur cette affaire, c'est bien sûr en raison de la nature très particulière de ce dossier. Le fait que tous les témoins soient sourds-muets a-t-il pesé sur la marche des investigations, voire dénaturé les déclarations des uns et des autres? Peut-on tout dire quand on ne peut rien dire? Le fait est que malgré 3 ans d'enquête et une condamnation, la vérité n'a pas clairement émergé. Des doutes, des questions persistent dans cette affaire. Seule certitude, Caroline Pierson a bel et bien été massacrée. L'affaire Caroline Pierson, un meurtre chez les sourds-muets. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime. 20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
Et ce soir dans l'heure du crime, le meurtre de Caroline Pierson, une femme sourde et muette qui menait une vie discrète et tranquille jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte à son tueur. Ce samedi 31 décembre 2016, le père de Caroline Pierson se rend au domicile de sa fille au numéro 18 de la rue Boileau, dans le quartier Europe à Saint-Quentin, sous-préfecture de l'Aisne. Il est inquiet car depuis 24 heures, il n'a plus de nouvelles de sa fille. D'ordinaire, Caroline, âgée de 47 ans, sourde et muette depuis sa naissance, lui envoie chaque jour un petit message. Mais là, rien. Le père, qui habite dans le même quartier, craint que sa fille soit souffrante. Elle est effectivement atteinte de la maladie de Crohn, qui provoque parfois chez elle de terribles douleurs abdominales. L'homme monte jusqu'au 5e étage, pousse la porte de l'appartement 22 et aperçoit aussitôt de nombreuses traces de sang sur les murs, le sol et les coussins du canapé. Le corps de Caroline a été déposé dans la salle de bain, à même le carrelage. La victime porte un legging et un soutien-gorge. Elle a le visage recouvert d'un sac poubelle, visage martyrisé sur lequel le meurtrier paraît s'être acharné, comme pour la défigurer. Lors de l'autopsie, le légiste va compter pas moins de 16 plaies profondes provoquées par une arme perforante, sans doute un couteau. Caroline Pierson a succombé à une fracture du crâne, son tympan gauche a été perforé, sa mâchoire en partie brisée. La police judiciaire débarque aussitôt sur le lieu du crime. Les témoignages ne sont pas nombreux. Dans cet immeuble tranquille, beaucoup de résidents n'étaient pas là quand Caroline a été tuée. Le 30 décembre, veille de sa découverte, beaucoup sont partis pour les fêtes de fin d'année. Une voisine dit toutefois avoir entendu un cri étouffé ce soir-là sans pouvoir dire à quelle heure exactement. Selon les résidents, la victime était une femme discrète qui, en raison de son handicap, ne communiquait pas beaucoup. Un bonjour, bonsoir d'un hochement de tête. Caroline Pierson était suivie par une association mais était parfaitement autonome. Après avoir travaillé comme agent d'entretien, elle souhaitait se reconvertir. Les policiers ne constatent aucune effraction sur la porte du logement. Le meurtrier n'a pas abandonné sur place l'arme du crime. Impossible de déterminer sa nature réelle. En revanche, le sac à main de Caroline Pierson a disparu. Un crime crapuleux n'est donc peut-être pas à exclure. Bonsoir Tony Poulain.
Bonsoir.
Vous êtes chroniqueur judiciaire au Courrier Picard. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Je précise que vous avez suivi absolument toute cette affaire étonnante, le meurtre de Caroline Pierson. Qui est justement la victime, Caroline Pierson ?
C'est une femme qu'on va caractériser, hélas, par son handicap, mais c'est tellement prégnant dans cette affaire qu'on ne peut pas faire l'impasse. Elle est sourde-muette. Mm-hmm. Une des grandes découvertes de ce procès qui a duré 5 jours, c'est ce monde fermé, alors peut-être fermé parce que notre société n'est pas adaptée aux handicapés, mais un monde en vase clos et avec des gens qui se définissent par leur handicap. On peut trouver ça très triste, mais c'est le cas, et qui vivent entre eux.
C'est ça. Et Caroline Pierson, finalement, alors cette jeune femme, cette femme, 47 ans, je l'ai dit, qui ne travaille pas, elle a grandi dans ce monde-là, depuis son enfance. Elle était dans des institutions spécialisées.
Oui, je ne sais plus qui a dit pendant le procès qu'elle s'est séparée du monde des entendants à l'adolescence. C'était intéressant parce que tout le monde n'est pas sourd et muet dans sa famille, loin de là. Et on nous a expliqué que elle est partie dans une institution spécialisée à Arras, où d'ailleurs elle a connu la personne qui sera condamnée pour finir. Et à ce moment-là, comme beaucoup de sourds-muets, elle s'est lentement coupée du monde des entendants. Alors, elle restait très proche de sa famille, qui lui rendait visite, à qui elle rendait visite. Elle était proche de sa famille. On nous a aussi expliqué qu'elle avait vraiment scindé les moments avec sa famille des moments qu'elle passait avec des sourds-muets.
C'est-à-dire,
vie personnelle. Elle avait vraiment créer une frontière étanche entre les deux.
Elle est véritablement autonome, et c'est d'ailleurs son père qui s'inquiète de son absence, en tout cas de son silence, si je puis dire, dans ce cas de figure, qui va aller chez elle et découvrir cette horrible scène de crime. Tony Poulain, que dit-elle, cette scène de crime ? Comment se présentent les lieux ? Je les décris brièvement, mais
d'abord,
qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ?
Comme vous l'avez rappelé, il n'y a pas d'effraction. Donc, sachant qu'il y avait un système de digicode, alors pour des sourds-muets c'est loin d'être évident, mais elle avait une lampe qui clignotait quand quelqu'un sonnait à l'interphone.
Elle avait une sonnette spéciale, c'est ça ?
Une sonnette lumineuse, si j'ose l'expression. Et donc ça permet de se dire qu'elle a ouvert sa porte, que l'auteur des faits est une personne qui était connue de la victime. Première indication. Deuxième indication, on se pose beaucoup de questions sur cette scène de crime, parce que il y a eu manifestement un début de volonté de cacher le corps de la victime.
De quelle manière ?
Parce qu'elle n'a pas été tuée dans la salle de bain, ça a été déterminé par les constatations scientifiques. Donc on l'a traînée jusqu'à la salle de bain. Elle a le visage à moitié caché par un sac poubelle. Bon, en même temps, c'est un petit studio, donc on aperçoit très vite ses pieds qui dépassent. C'est pour ça que je parle d'une demi-tentative. On comprend pas bien.
C'est maladroit, c'est ça.
Pourquoi l'auteur des faits a pas quitté à toute vitesse le lieu après avoir commis le meurtre ? J'ai toujours pas la réponse à cette question après 5 jours de procès.
Ce qui est important dans ce que vous dites, c'est que elle a finalement ouvert à quelqu'un sans doute qu'elle connaissait.
Certainement.
Ça c'est un point très important. Ensuite, le sac sur le visage, on retrouve ça parfois sur des scènes de crime. Alors c'est souvent fait pour occulter une vérité qu'on veut cacher.
Oui, à soi-même.
Voilà, c'est ça.
Pas tant à de futurs enquêteurs, mais plutôt à soi-même.
C'est un classique du genre en matière de crime.
Mm-hmm.
Donc, elle a ouvert donc la porte sans se méfier. Que vont faire là les enquêteurs ? Il y a un prélèvement, je suppose, évidemment, d'indices.
Toutes les constatations classiques qui vont déterminer d'ailleurs qu'elle a pas subi ou eu de rapport sexuel juste avant.
Elle n'a pas été violée, c'est ça.
Voilà. Et il y a un endroit qui est en désordre, c'est le placard de sa chambre, qui donne l'impression d'avoir été fouillé. Et puis très vite, on se rend compte qu'il manque son téléphone portable, son sac à main, ses moyens de paiement.
Les policiers vont donc tout de suite concentrer leurs recherches dans le milieu des sourds-muets. Il apparaît que Caroline Pierson recevait parfois des hommes chez elle, des hommes qu'elle connaissait bien, partageant son handicap, appartenant à la même communauté. L'affaire Caroline Pierson, qui en voulait à cette sourde muette au point de se déchaîner contre elle ? L'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
20h-21h,
l'heure du crime sur RTL.
RTL. 20h-21h,
l'heure du crime sur RTL.
Et ce soir, au programme de l'heure du crime, l'affaire Caroline Pierson. Cette sourde muette a été sauvagement tuée, mutilée, dans son appartement de Saint-Quentin. La police recherche l'une de ses connaissances, un homme. Les enquêteurs travaillent sur l'entourage direct de la victime, Caroline Pierson. Elle était très liée à sa famille, ses parents, mais menait par ailleurs une vie totalement indépendante. Les témoignages recueillis par la police judiciaire attestent que celle-ci rencontrait des hommes de temps à autre, quelques amis, quelques amants. Une voisine explique ainsi qu'elle voyait régulièrement un homme venir lui rendre visite, un sourd-muet comme elle. Ce témoin croyait qu'ils étaient mari et femme. Une amie de Caroline Pierson, malentendante elle aussi, se confie sous le sceau de l'anonymat au journal L'Aine Nouvelle. Caroline lui aurait raconté qu'une semaine avant Noël, quelqu'un est venu souvent sonner tard le soir chez elle. Cette amie lui aurait conseillé de ne pas répondre et surtout de ne pas ouvrir sa porte. Cette personne qui venait régulièrement, elle en avait peur. Je n'ai jamais su de qui il s'agissait, affirme cette témoin. Caroline Pierson avait un compagnon, un certain Patrick, un sourd-muet de 52 ans qui habite Lille. Tous les vendredis, il se rendait à Saint-Quentin pour passer une partie du week-end avec elle. Sauf ce vendredi 30 décembre 2016, le jour du meurtre. Caroline lui avait fait savoir par texto qu'elle ne voulait plus le voir, qu'elle le quittait. Patrick, jaloux et en colère, se serait-il tout de même déplacé jusqu'à Saint-Quentin pour s'expliquer ? Cette première piste, séduisante, s'effondre rapidement. La téléphonie ne matche pas avec un déplacement, qui plus est. Patrick dispose d'un solide alibi. C'est un autre homme qui retient très vite l'attention. Gérald Descamps. 46 ans, une vieille connaissance de Caroline Pierson. Dans les années 80, il était lui aussi interne au centre d'éducation pour jeunes sourds d'Arras. Il a la réputation d'être un coureur de jupons, un pénitent, et même peut-être davantage. Cet homme, estime la police, a un profil judiciaire qui pose question. Il a déjà été condamné pour violence en 2003 et 2010, la deuxième fois pour violence sur conjoint. Alors, s'est-il montré trop pressant auprès de Caroline Pierson ? Dès le lendemain de la découverte du corps, Gérald Descamps est entendu au commissariat. Il dément, posément, toute agression. Après quelques heures d'interrogatoire, il est relâché. Aucune poursuite n'est déclenchée contre lui. Bonsoir, maître Caroline Jean.
Bonsoir, monsieur Richard.
Vous êtes ce soir au téléphone avec nous de l'heure du crime et je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes.
Je vous remercie pour l'invitation.
Voilà que la rencontre est faite, si je puis dire, le rendez-vous est pris. Maître Caroline Jean, je précise que vous êtes l'avocate de Gérald Descamps, qui à l'époque est un simple, même pas un suspect dans cette affaire, il est brièvement entendu. Qui est donc Gérald Descamps ?
Alors, Gérald Descamps, c'est un père de famille qui travaille dans une usine à côté de Saint-Quentin. Il vit seul. À l'époque où moi je le rencontre, il vit seul. Hein. Et il a une vie, somme toute, très classique. Il travaille, il voit ses enfants et a quelques fréquentations dans le milieu également des sourds et muets, puisque forcément, on se rapproche de nos semblables. Mais c'est quelqu'un qui est relativement seul quand même.
Alors relativement seul, il ne fait pas parler de lui, en tout cas à ce moment-là. Un mot tout de même sur son casier judiciaire, entre guillemets, sur ses antécédents. Il a été condamné pour violence, c'est bien ça ?
Alors il a été condamné effectivement à deux reprises. La première fois quand même à du sursis simple. Mmh. La deuxième fois à une peine ferme et avec du sursis mis à l'épreuve. Effectivement, pour des faits de violence dans des contextes un peu particuliers, à chaque fois dans un contexte de séparation avec ses compagnes.
D'accord. Dès le début, maître Caroline Jean, on a le sentiment que y a une mauvaise réputation qui flotte autour de lui. On dit que c'est un dragueur invétéré, que c'est un coureur de jupons, voire un petit peu oppressant pour les femmes. Est-ce que ce sont les premiers témoignages qui sont recueillis ?
Oui, alors, simplement quand même, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'au départ, les enquêteurs s'intéressent à Gérald Descamps parce qu'il est désigné par un autre sourd et muet de 50 ans comme faisant partie de l'entourage de Caroline Pierson.
Il est montré du doigt, c'est ça ?
Il est montré du doigt par une personne, oui, effectivement. Et c'est comme ça que d'ailleurs les enquêteurs vont s'intéresser dans un premier temps à Gérald Descamps.
Parce que pour l'instant, il n'apparaît pas dans leur radar, si je puis dire.
Exactement. Alors, dragueur invétéré, je ne sais pas si c'est le cas. Plusieurs personnes sont venues dire qu'à l'époque où Caroline Pierson est tuée, Gérald Descamps était un peu dans une quête amoureuse, qu'il recherchait quelqu'un. Voilà.
Donc, on est là au tout début, hein, je le précise, de l'enquête. Et puis on va évidemment parler très très longuement de ce qui va se passer par la suite. Votre client, Gérald Descamps, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là ? Moi, je ne suis pas allé chez Caroline Pierson ce soir-là, c'est ça ?
C'est ce qu'il raconte ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'au départ, on lui pose des questions d'ordre général. Hein. On est quand même dans le cadre d'une garde à vue. Et dans le cadre de cette garde à vue, on lui demande s'il la connaît, s'il l'a déjà croisé récemment, etc. Au départ, les questions sont vraiment d'ordre général. Ce qui est sûr, c'est que Gérald Descamps a toujours indiqué qu'il ne s'était pas rendu chez Caroline Pierson le soir de son décès. Le jour même, le 30, voilà. Le 30 décembre, il dit toujours qu'il ne s'y est pas rendu.
Voilà, c'est ça. Il affirme, moi je n'y suis pour rien et je ne suis pas allé chez elle.
Hein. Exactement.
Tony Poulain, chroniqueur judiciaire au Courrier Picard. Caroline Pierson voit plusieurs hommes, elle a une vie intime peut-être un peu difficile à suivre pour les enquêteurs.
Oui, qui vont être surpris dans un premier temps. Il y a celui qu'on pourrait appeler le conjoint régulier, même s'il ne rentre que les week-ends. Et puis elle peut avoir 3-4 amants en simultané dans les dernières années qui précèdent sa vie. Elle a en effet une vie sentimentale et sexuelle assez active. Comme d'ailleurs beaucoup de témoins qui sont venus à la cour d'assises de Laon dans ce dossier. Est-ce que c'est une particularité de ce monde qu'on connaît peu, mais ça a frappé tous les observateurs.
D'accord, oui, d'être vraiment ensemble tous, etc.
De se retrouver. D'être très ensemble, oui.
Ouais, donc il n'y a pas en tout cas que Gérald Descamps qui est dans l'entourage.
Non, il y a ce.
De Caroline Pierson, on est d'accord.
J'avoue que c'est encore un mystère pour moi, même après le verdict. C'est cette étrange coïncidence quand même qui voudrait que Caroline Pierson ait décidé de quitter celui qui est son ami depuis, on peut dire, des années. Justement le soir où elle va être assassinée. C'est possible, mais c'est quand même une sacrée coïncidence.
Encore un petit mot, le fameux Patrick, qui est donc son régulier, si je puis dire,
oui.
Quelqu'un qu'elle voit depuis plusieurs années, et il a vraiment un alibi, lui, il n'y a pas de doute là-dessus.
Oui, mais son alibi, c'est ses parents, parce qu'il dit qu'il a passé la soirée chez ses parents, qu'il a même montré à ses parents le texto par lequel il venait d'être éconduit, et il est parti dès le lendemain matin chez des amis en bord de mer, à Mers-les-Bains, amis qui ont témoigné de sa venue.
Gérald Pierson, lui, quitte pour le moment libre les locaux de la police, mais il ne va pas tarder à y retourner. La police, qui dispose désormais de tout un faisceau d'éléments contre ce sourd-muet, qui nie s'être rendu chez la victime. L'affaire Caroline Pierson, meurtre chez les sourd-muets, tué par un amant déçu ou pour son argent ? L'enquête ce soir de l'heure du crime sur RTL, on se retrouve dans un instant.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. RTL. 20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Caroline Pierson. Cette femme sourde et muette a été sauvagement tuée dans son appartement. Elle voyait beaucoup de monde, mais un homme, un seul, est dans la ligne de mire des enquêteurs. 20 jours après le meurtre de Caroline Pierson, vers 7h du matin, ce 20 janvier 2017, la police judiciaire d'Amiens interpelle chez lui Gérald Descamps. Il avait déjà répondu aux questions des enquêteurs après le crime et avait été relâché. C'est un proche de Caroline Pierson. Cette fois, pas question de simple vérification. On le place en garde à vue. Son appartement est perquisitionné. Puis, il est conduit sur son lieu de travail, une usine d'emballage de carton, l'usine Ondulis de Rouvroy-Morcourt. Le but de ce déplacement, sous bonne escorte, est de voir avec quels outils l'ouvrier travaille, savoir si l'un d'eux, pointu et acéré, a pu causer les blessures mortelles infligées à Caroline. Aucune révélation de ce côté-là. Les choses s'accélèrent pour le suspect numéro 1. coup de théâtre. Après une nuit en garde à vue, Gérald Descamps est déféré au parquet de Laon, présenté à un juge d'instruction qui le met en examen pour homicide volontaire. Il est placé en détention. Son avocate indique qu'il réagit comme quelqu'un qui se dit innocent et qui affirme qu'il n'était pas sur le lieu du crime. Les enquêteurs et le juge pensent le contraire. Ils disposent pour cela d'éléments considérés comme capitaux, des traces ADN appartenant à Descamps, une empreinte au dos de la carte de crédit de la victime, carte dérobée et utilisée 3 fois dans les heures suivant le meurtre. Au total, 1 340 € retirés sur le compte de Caroline Pierson avant que la carte ne soit avalée par le distributeur. Le téléphone portable du suspect a également borné cette nuit-là dans le quartier Europe de Saint-Quentin. Gérald Descamps finit par reconnaître qu'il s'est rendu chez Caroline, mais jure qu'il ne l'a pas tuée. Il n'a pas utilisé sa carte de crédit, il l'a simplement manipulée en ramassant le contenu du sac de Caroline que celle-ci venait de faire tomber. Les policiers ne croient pas aux explications de Gérald Descamps. Selon eux, tout l'accable. Quelques mois plus tard, ses certitudes sont toutefois écornées. Une autre trace ADN, une trace de sperme découverte sur la culotte de la victime, désigne un deuxième homme, Laurent C. Et lui aussi un sourd-muet. Quand il a été interpellé, il a nié toute implication dans le crime. Lors de son interrogatoire, il a même chargé Gérald Descamps, le décrivant comme un meurtrier potentiel. Cette interpellation brouille quelque peu alors le paysage de l'enquête. Maître Gilles Laurent, l'avocat des parents et de la sœur de Caroline Pierson, fait le constat suivant. Tous les deux contestent leur responsabilité. Caroline a été massacrée, nous, partie civile. Ce qui nous intéresse, c'est la recherche de la vérité. Tony Poulain avec nous ce soir dans le studio de l'heure du crime. Je rappelle que vous êtes chroniqueur judiciaire au Courrier Picard et que vous avez suivi toute cette affaire. Là, véritablement, il y a une accélération et assez rapide dans cette enquête. Une garde à vue, puis même quelqu'un qui est mis en examen.
Oui, et puis c'est l'implication d'un deuxième homme va tout de même permettre de dire que les enquêteurs ne se sont pas focalisés exclusivement sur Gérald Descamps. On ne peut pas leur faire ce reproche d'être parti sur une piste et d'avoir ignoré toutes les autres, puisqu'il y a quand même un homme qui va faire 1 an de détention provisoire avant de bénéficier d'un non-lieu, le Laurent C. dont vous venez de parler. Donc manifestement, plusieurs pistes ont été étudiées. Si on veut résumer ce qui fait que Gérald Descamps sera renvoyé devant une cour d'assises et même condamné, je dirais que c'est l'évolution de ses réponses. Dans un premier temps, il a à peine côtoyé Caroline Pierson. Et puis, un policier va dire au procès, il trouvait une réponse à chaque fois qu'on lui a amené une constatation. C'est-à-dire qu'on lui dit, vous l'avez très peu vu, mais il y a votre ADN sur une petite cuillère dans l'évier. Ah oui, c'est vrai, on a bu un café. Mais il y a aussi votre ADN, il y a aussi des traces de votre sperme sur une couverture dans le salon. Ah oui, c'est vrai, on a eu un rapport sexuel. Mais et puis vous dites que vous n'avez jamais vu sa carte bancaire, mais il y a votre ADN sur la carte bancaire. Ah, maintenant que vous le dites, j'ai fait tomber son sac, la carte bancaire a glissé, comme elle avait une forme qui me semblait bizarre, je l'ai manipulée à ce moment-là. Voilà, toutes ces explications en elles-mêmes, elles tiennent la route, on a vu plus loufoque, mais d'abord c'est leur accumulation. Et c'est le fait que ça arrive au compte-gouttes pour répondre à une constatation scientifique.
Ce que vous dites, c'est que finalement, cet homme s'adapte un petit peu à l'enquête.
Complètement.
Hein, il suit, etc. C'est d'ailleurs, on va avoir dans un instant maître Gilles Laurent, qui est l'avocat de la partie civile, de la famille, et qui sans doute va confirmer cet état d'esprit, puisque ça a été un des axes de sa défense, de dire que cet homme s'adapte finalement au discours des policiers, qu'il suit comme cela, ce que disent les enquêteurs. Maître Caroline Jean, vous êtes en ligne dans l'heure du crime ce soir. Je rappelle que vous êtes l'avocate de Gérald Descamps dans cette affaire.
L'une des avocates, hein, nous sommes deux. Hein. Il y a aussi Maître Borin du barreau de Saint-Quentin. Nous étions deux en défense. Hein.
Voilà, donc c'est bien de la citer également. Maître, ce qui ressort de cette garde à vue, c'est que votre client, Gérald Descamps, eh ben, il n'a pas dit la vérité.
Alors, je ne partage pas du tout votre avis à ce sujet.
Alors, allez-y.
Alors déjà, contrairement à ce que vous avez pu dire, Gérald Descamps n'a jamais été entendu en dehors de la garde à vue. Gérald Descamps est désigné par une tierce personne dans ce dossier. Et ensuite, les enquêteurs vont vraiment faire un travail d'enquête sur Gérald Descamps. Ils vont même le suivre pendant quelques temps. Il ne sera arrêté que, comme vous l'avez dit, aux alentours du 18 ou 20, je ne sais plus trop, 18 janvier. Il ne sera entendu que dans le cadre de la garde à vue. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que M. Descamps, d'entrée de jeu, n'a pas effectivement dit « oui, je la côtoie, je l'ai côtoyée à telle date, telle date, telle date, à telle date j'ai eu un rapport sexuel avec elle, à telle date j'ai ramassé son sac à main ». Effectivement, non, il n'en parle pas spontanément. Mmh. Par contre, quand on lui pose des questions, il y répond.
Mais est-ce qu'il s'adapte un petit peu comme un caméléon au discours des enquêteurs ?
Je connais bien M. Descamps. En tout cas, moi, en tant qu'avocat de la défense, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Et j'ai simplement trouvé qu'il avait répondu à la simple question qu'on lui a posée. Il n'a jamais été très prolixe, en fait. Il répond aux questions.
Il répond aux questions. Selon vous, il ne ment pas, même si les enquêteurs se considèrent qu'à ce stade-là, il ment. En tout cas, qu'il dit qu'une part de la vérité, entre guillemets. Hein. On est là pour l'instant à ce stade de l'enquête.
À ce stade de l'enquête, mais vous voyez, par exemple, quand on reprend les procès-verbaux de la garde à vue à laquelle j'ai assisté, il y a un deuxième procès-verbal où l'enquêteur lui dit « Hier, on vous a demandé si vous aviez, touché la carte de Caroline Pierson. » Or, la question qui lui avait été posée la veille, c'était pas de savoir s'il avait eu dans les mains la carte de Caroline Pierson. La question, c'était de savoir s'il l'avait utilisée. Mmh. Et à la question « l'a-t-il utilisé ?», il a toujours dit « non ».
Non, je ne l'ai pas utilisé, effectivement. Maître Gilles Laurent, bonsoir. Vous êtes l'avocat, vous, de la famille de Caroline Pierson, partie civile. On a parlé de cet homme qui suivrait, dirons-nous, le parcours, en tout cas les questions des enquêteurs un petit peu au fil de l'eau. Même s'il ment, les mensonges ne font pas forcément de lui un coupable.
Je vais aller un peu dans votre sens. Ces seuls mensonges ne suffisent pas. Bon. Pour en faire effectivement ces seuls mensonges. Hein. Encore que dans cette affaire-là, on a eu véritablement des versions totalement différentes en fonction de l'évolution. C'est en fonction des découvertes des enquêteurs, si vous voulez. Mais il n'y a pas que ça. Vous savez qu'au moment du crime, la carte bleue de Madame Pierson a été dérobée. Et cette carte a été immédiatement utilisée. Deuxième élément matériel constant, c'est l'utilisation du téléphone portable de Monsieur Descamps, puisque celui-ci a borné sur les lieux du prélèvement de l'utilisation de la carte bleue.
Maître Caroline Jean, vous êtes en ligne avec nous. Ce que dit votre confrère Gilles Laurent, juste un petit mot très bref sur la téléphonie, parce qu'on va en reparler.
Oui.
Son téléphone, il borne à votre client.
Alors, faut savoir que sur la journée du 30, le téléphone de Monsieur Descamps ne borne pas de 11h16 du matin à 23h16 le soir. Et de manière régulière, il apparaît de la téléphonie de Monsieur Descamps que régulièrement, sur des journées complètes, son téléphone ne borne pas. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que le fameux retrait qui est effectué avec la carte de Caroline Pierson, dont mon confrère vient de vous parler, s'effectue à 22h46. Mmh. Et le téléphone de mon client borne à 23h16, donc 30 minutes plus tard, dans la zone qui est déclenché par le distributeur.
Dans la zone du retrait, hein, on est d'accord. Okay. Donc pas du tout dans le même créneau horaire, si je puis dire.
Voilà, et c'est surtout que 23h16, il borne donc, effectivement sur cette zone-là, mais 23h17, il borne déjà à un autre endroit.
Deux interpellations, peut-être, mais un seul homme, Gérald Descamps, va au final être renvoyé pour être jugé pour meurtre. Un procès pas comme les autres, en langue des signes, pour accéder peut-être à la vérité. L'affaire Caroline Pierson, meurtre chez les sourds-muets, le procès du silence. L'enquête ce soir de l'heure du crime, rendez-vous dans un instant sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Caroline Pierson. Cette femme sourde-muette a été retrouvée morte chez elle en décembre 2016, frappée à la tête à 16 reprises avec une lame effilée. La justice considère que l'auteur présumé du crime est un autre sourd-muet renvoyé aux assises. Le jeudi 12 novembre 2020, 3 ans après le meurtre de Caroline Pierson, Gérald Descamps se présente devant la cour d'assises de l'Aisne, Laon. L'homme, cheveux poivre sel et vêtu d'un blouson kaki, affiche un visage robuste et creusé. rapidement interpellé après la découverte du corps. Il a passé ses 3 dernières années en prison. Procès pas comme les autres. Gérald Descamps est sourd-muet. La plupart des témoins cités à comparaître également. C'est donc en langue des signes que vont se dérouler toutes les audiences. 4 interprètes se relaient pour traduire en simultané ce que dit l'accusé et lui transmettre tout ce qui se dit dans la salle d'assises. L'épidémie de Covid-19 ne facilite pas les choses. Les masques des uns et des autres sont tour à tour enlevés pour pouvoir communiquer et lire sur les lèvres. Le procès porte évidemment sur les déclarations évolutives formulées par l'accusé. L'avocat de la partie civile, à savoir la famille de Caroline Pierson, estime que Descamps n'a cessé de s'adapter au contexte de l'affaire, reconnaissant par exemple sa présence dans l'appartement et avoir eu une relation sexuelle avec la victime uniquement quand on lui soumet les conclusions de l'expertise ADN. Expertise qui serait confondante. L'accusé a laissé des traces chez Caroline Pierson sur un plaid, sur une cuillère à café, mais aussi sur la carte de crédit de Caroline, c'est lui qui l'aurait utilisé afin tout simplement d'assouvir sa passion pour le jeu. Bien que confortablement payé, 2100 € mensuels, il était placé sous curatelle en raison de son handicap, mais aussi pour son addiction au jeu de hasard. Il disposait ainsi de seulement 130 € par semaine. 3 amants de Caroline Pierson vont apparaître lors des débats devant la cour d'assises. Gérald Descamps, bien sûr, l'accusé. Patrick, avec qui elle avait une liaison depuis 4 ou 5 ans, avec qui elle aurait envisagé de se marier. Laurent, qui a été interpellé, placé en détention pendant 18 mois, puis finalement libéré. Il avait eu une relation sexuelle avec la victime au matin du 30 décembre 2016, le jour même où elle a été tuée. Le profil d'un autre homme va également être étudié par les enquêteurs, celui d'un compagnon de Caroline Pierson en 1999 qui avait alors tenté d'écraser sa mère avec sa voiture. Piste abandonnée lors des investigations. Tony Poulain, chroniqueur judiciaire au Courrier Picard avec nous ce soir dans le studio de l'heure du crime. Un mot déjà sur cette ambiance très particulière de ce procès, quasiment unique dans les annales judiciaires.
Oui, on a discuté avec les interprètes, les 4 interprètes qui se relayaient, et je peux vous dire que 4, c'était pas de trop, parce que on a compris à quel point c'était éprouvant de traduire tous les débats d'un procès d'assises. Et elles nous ont dit que non, à leur connaissance, c'était jamais arrivé, parce qu'il y avait pas que l'accusé, il y avait les témoins, et puis, donc elles traduisaient à la fois du français parlé vers la langue des signes, mais aussi de la langue des signes vers le français parlé pour les jurés, pour les juges.
Donc c'était quelque chose de très laborieux, je suppose, les débats.
Oui, et ça nous a, vous voyez, Maître Jean parler de la nuit, entre toucher ou utiliser une carte bancaire. Il faut savoir que la langue des signes n'a pas un geste pour chaque mot du dictionnaire français. Tout comme vous ne trouverez pas un idéogramme chinois pour chaque mot de la langue française.
Ah, c'est important ce que vous dites, bien sûr.
Et donc il y a certaines nuances qui ne peuvent pas être rendues en langue des signes. J'irai plus loin. L'assistance d'un avocat en garde à vue est un vrai progrès pour la justice française. Si Gérald Pierson n'avait pas eu d'avocat pendant ses gardes à vue, ses défenseurs auraient peut-être eu un argument en or au moment du procès qui aurait été de dire mais ce qu'on vous a mis dans les procès-verbaux, qu'est-ce que ça vaut puisque c'était traduit en langue des signes dans des conditions dont je ne peux pas témoigner. Bon, il y avait un avocat.
Maître Caroline Jean, vous êtes toujours en ligne avec nous dans l'heure du crime, oui. Avocat de Gérald Descamps. Est-ce que le fait que ce soit un procès de sourd-muet, presque entre sourd-muet si je puis dire, a pesé sur les débats et peut-être, non pas occulté, mais en tout cas gêné une partie de la vérité?
Alors, à mon sens, c'est indéniable. Pour la simple et bonne raison, mais comme l'a dit à juste titre de Tony Poulain, c'était très compliqué avec l'interprète parce que il fallait vraiment tout traduire très fidèlement. Et comme l'a dit également Monsieur Poulain, c'est qu'il n'y a pas un mot pour chaque, il n'y a pas un signe pour chaque mot. Et il faut savoir qu'en langue des signes, ce sont des idées générales. En fait, la traduction se fait par une idée. Et forcément, ce qui peut être compris par l'un peut être compris différemment par l'autre. Et il faut quand même savoir qu'on a eu un certain nombre de témoins qui sont venus à la barre, qui, en 2 questions, étaient capables de nous dire tout et son contraire.
Est-ce que votre client a fait savoir que parfois il ne comprenait pas ou bien qu'il n'arrivait pas à s'exprimer, à exprimer sa vérité ou ce qu'il voulait dire ?
Alors, le souci, c'est que M. Descamps, sur le moment, quand il répondait, alors je parle dans le cadre de la procédure, répondait et après coup, avec nous, pouvait dire « mais ça veut dire quoi ça ?»
C'est ça, oui.
Donc... Et ça pouvait parfois poser des difficultés. Ceci dit, pour rebondir sur ce que Tony Poulin a expliqué sur la garde à vue, il faut quand même savoir, et ce qui n'est pas négligeable, c'est qu'en garde à vue, il y avait une interprète en langue des signes, et que cette interprète, il y a un procès verbal qui est établi en procédure, elle dit, à un moment donné, elle dit aux enquêteurs, tout à l'heure j'ai traduit ça, mais je pense que j'ai mal traduit. J'ai mal compris ce que M. Descamps m'a dit.
Ah, donc ça pose quand même beaucoup de problèmes, y compris lors de la garde à vue, cette espèce d'absence de communication ou de communication très difficile, hein, on est d'accord. Hein,
oui, qu'en plus, le niveau de langue des signes des uns et des autres n'est pas le même. Par exemple, les interprètes qui étaient là au procès ont pu nous dire « M. Descamps utilise des signes anciens ».
Ah oui, d'accord.
Et n'a pas un très bon niveau.
Donc effectivement, ça c'est extrêmement intéressant et on voit bien toute la complexité de ce genre de procès. Je voudrais qu'on retrouve Maître Gilles Laurent, qui est lui l'avocat de la famille de Caroline Pierson, la partie civile, et qui est au téléphone de l'heure du crime, pour revenir sur un petit point des débats quand même qui est important. J'ai parlé de la carte bleue, de l'argent qui a été retiré. Maître Laurent, est-ce que vous considérez que l'argent peut être un mobile dans cette affaire ?
L'argent peut être un mobile parce qu'on sait qu'il était addict au jeu, ça peut constituer effectivement un mobile, oui. Moi, je continue à penser que le fait que la cellule de téléphone de M. Descamps émette à l'endroit où le premier prélèvement est effectué, et tout de suite après l'heure de la possible mort de Mme Pierson, est un élément quand même très à charge. Bon.
Maître Caroline Jean, que pensez de ce que dit à l'instant Maître Gilles Laurent? J'ai parlé de ce qui s'est passé et ce qui s'est dit au procès. Une attaque pour de l'argent, pour assouvir finalement une passion interdite et coûteuse, le jeu, c'est la passion apparemment de votre client. C'est plausible ou non?
Alors, non, à mon sens, non. Monsieur Descamps.
Dites-nous pourquoi, parce qu'apparemment, c'est un addict.
Ah ben oui, non, mais on est d'accord. C'est-à-dire que, déjà, deux choses. La première, c'est que Monsieur Descamps, il avait effectivement une passion pour le jeu plusieurs années en arrière, ce qui lui a valu d'ailleurs quelques difficultés financières, ce qui lui a valu son placement sous mesure de protection.
Bon, sous curatelle.
À l'époque. Sous curatelle renforcée, tout à fait. À l'époque où M. Descamps est mis en examen dans le cadre de ce dossier, il faut savoir qu'il est sous mesure de protection depuis un certain nombre d'années, que sa curatrice lui donne 130 euros par semaine, et on a retrouvé également à son domicile un certain nombre de tickets de jeu qui étaient usagés. On avait fait le calcul, alors je ne me souviens plus du montant exact, mais en gros, sur 6 mois, on était aux alentours de 30 ou 40 euros par mois de jeu. Monsieur Descamps, il le disait lui-même, le vendredi, tous les vendredis, sa curatrice lui mettait 130 euros sur son compte bancaire qu'il allait retirer. Et il venait à dire, effectivement, le vendredi, je prends mon argent, je vais dans le café qu'il y a en face du distributeur où j'ai retiré cet argent, et je joue. Voilà, il va à 30 euros, ce qui est d'ailleurs confirmé par les cafetiers.
Hein. Donc ce n'est pas significatif selon vous, hein. c'est bien ça. Hein.
Significatif, il ne jouait pas en ligne, il a dans les années passées joué en ligne, etc. Mais ce n'était plus le cas au moment où il est mis en examen.
Les débats devant la cour d'assises vont durer une semaine. Gérald Descamps continue à nier toute implication dans le crime, malgré les indices que présentent les enquêteurs et les témoignages à charge qui vont se multiplier. L'affaire Caroline Pierson, meurtre chez les sourds-muets, l'accusé est-il le bon ? L'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL, on se retrouve tout de suite.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
Ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Caroline Pierson, cette femme sourde et muette, a été assassinée, défigurée. Gérald Descamps, un sourd-muet qui la connaissait bien, est l'unique accusé du procès qui touche désormais à sa fin devant la cour d'assises de l'Aisne. Les jours passent et dans son box, Gérald Descamps continue à nier toute implication dans le crime de Caroline Pierson. Il reconnaît être passé chez elle le jour du meurtre, reconnaît une relation sexuelle, mais assure ne pas l'avoir frappée ni tuée. Il réfute également avoir dérobé et utilisé sa carte de crédit. Sur ce point, l'accusation appuie sa démonstration par des images de vidéosurveillance. Elle montre une silhouette masculine non identifiée, retirée de l'argent avec la fameuse carte, détail troublant. Cet individu se déplace sur un scooter noir, le même deux roues que possède Gérald Descamps. Les dépositions faites lors de l'enquête par des témoins, notamment des femmes appartenant à la communauté des sourds-muets, ne dressent pas un portrait très flatteur de l'accusé. Un homme qui serait décrit comme collant, oppressant, quasiment menaçant, un jaloux, un profiteur, dit même un témoin. Laurent, cet amant qui a été interpellé puis relâché au cours des investigations, prend même la parole pour affirmer que Caroline avait peur de Gérald Descamps. Il l'aurait violée à deux reprises en 1995 et 2016. Affirmation non étayée. Le 18 novembre, l'avocate générale réclame une peine de 25 ans de prison avec une période de sûreté de 10 ans. La défense plaide l'acquittement. Les jurés condamnent Gérald Descamps à 20 ans de détention. Il y aura donc un procès en appel. Un mot avec vous, Tony Poulain, chroniqueur judiciaire au Courrier Picard. Cette histoire de scooter, c'est troublant, non ? Le fait que...
Ouais, alors ça ne nous a quand même pas troublé très longtemps parce que l'enquête a bien fait son boulot et il y avait 50 scooters du même type dans la ville de Saint-Quentin. Qui en plus historiquement est une ville où on fabriquait des scooters d'ailleurs de la marque MBK. Donc voilà, ça peut être 49 autres. Je reviendrai aussi rapidement sur les témoignages, parce que Maître Jean avait raison de dire que les témoignages, c'était un peu tout et n'importe quoi. On a l'impression qu'à un moment, ça a quand même été l'accusé idéal, parce que si c'était lui, c'était pas un autre. Alors, je suis pas en train de dire qu'il est innocent, coupable, c'est pas du tout mon rôle. Le fait est qu'il a été assez facile de démonter certains témoignages à l'audience, tellement ils étaient basés sur du sable ou en tout cas sur un gros ressentiment.
Maître Jean, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime, avocate de Gérald Descamps. Tout le monde vise votre client. On a l'impression que c'est un violent, quelqu'un d'infréquentable. Les témoignages se succèdent. Que penser de ce défilé ?
Oui, comme vient de dire Tony Poulain à juste titre, c'était effectivement tout et n'importe quoi, et notamment des personnes avec qui il était en contact de manière régulière, ce qui ressort de la téléphonie, sont venues dépeindre un portrait de quelqu'un qui effectivement n'est pas fréquentable, mais qu'il fréquentait quand même. Et comme le dit à juste titre Monsieur Poulain, je partage son avis, pendant le temps qu'on en accuse un, on cherche pas ailleurs, donc tant qu'à faire, autant charger celui qui est dans le box, c'est tellement plus facile.
Selon vous, maître, on s'est focalisé vraiment sur un seul homme ?
Ah, complètement. De toute façon, complètement. Il faut savoir quand même que sur cette fameuse vidéosurveillance, alors qui est quand même de piètre qualité, il faut savoir que c'est une vidéo de la ville qui est située à 50 mètres du distributeur. Ils identifient effectivement ce fameux scooter. Alors sur le scooter, j'indiquerai quand même au passage que nous, on avait fait remarquer que le scooter était porteur de 1 à 2 rétroviseurs, dont celui de droite, alors que celui de M. Descamps n'a qu'un rétroviseur à gauche. Mmh. Et au-delà de ça, il y a également deux autres silhouettes qui sont vues dans peu de temps après.
Dans le même
qui sont également vues exactement dans le même secteur. Qui sont, on voit un homme d'ailleurs avec un jean clair, un blouson noir, cheveux poivre et sel. Voilà, donc il n'y a pas que ce fameux scooter et il y a d'autres personnes aussi qui sont vues sur cette vidéo-surveillance, mais la qualité est c'est vraiment de très mauvaise qualité. C'est difficile.
C'est une silhouette effectivement et d'ailleurs il n'y aura pas de suite là-dessus parce que c'est pas du tout concluant. Maître Gilles Laurent, avocat de la famille de la victime. Alors, selon vous, quel est, vous avez écouté ce que dit Maître Caroline Jean, selon vous, quel est le scénario du soir du meurtre ?
Écoutez, pour nous, partie civile, qui résulte de l'enquête, de l'instruction et des débats à l'audience, c'est que lorsqu'il s'est présenté chez elle, c'est pour une discussion entre elle et lui sur peut-être sur la carte bleue, qui lui a dérobé sa carte bleue, qu'elle ne s'est certainement pas laissé faire, qu'il l'a tué, et qu'il a ensuite été prélevé de l'argent sur son compte.
Sur son compte, qu'attendez-vous, maître, de ce procès en appel qui sera audiencé sans doute dans quelques semaines ou quelques mois ?
Écoutez, on attend pour nous la partie civile sur le plan de la culpabilité. Et on attend une confirmation, tout simplement, bien sûr. Je ne vais pas vous dire le contraire. La famille étant persuadée que M. Descamps cette conviction s'étant renforcée beaucoup au cours de l'audience.
Au cours des débats et au cours du procès. Maître Caroline Jean, je vous pose exactement la même question. Ça va être un procès sans doute difficile pour votre client. Quelle carte vous comptez abattre dans ce dossier ?
J'ai envie de dire qu'on s'inscrira exactement dans la ligne droite de ce qu'on a fait, de ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire de démontrer qu'il y a plein de pistes qui n'ont pas été exploitées, démontrer que ce qu'on reproche à M. Descamps n'est pas possible. Juste un petit mot, M. Richard, si vous me permettez, parce que ça me paraît quand même très important, c'est que l'ADN de M. Descamps sur cette fameuse carte bancaire, elle est retrouvée sur une seule zone, sur le dessus de la carte bancaire. Il faut savoir que la carte bancaire a été utilisée ou tentée d'être utilisée 7 fois. Donc ça voudrait dire qu'en fait, M. Descamps n'a laissé son ADN que sur une seule zone et uniquement sur le dessus. Donc, il faudra quand même qu'on m'explique, et c'est ce que j'ai tenté de démontrer à la cour d'assises, comment on peut introduire une carte dans un distributeur en ne mettant son doigt que sur le dessus d'une carte.
Et effectivement, c'est troublant, et j'ajoute à cela, maître, je vais vous laisser poursuivre, mais qu'il y a d'autres traces également sur la carte.
Exactement. Hein. Sur cette même carte, il y a 2 autres ADN, un ADN masculin et un ADN féminin, non identifié, qui là, pour le coup, se situe sur 2 zones, sur le dessus et sur le dessous. Sachant que également, sur le cadavre de Caroline Pierson, a également été retrouvé un ADN masculin sur le dessus de sa main droite, qui n'a pas été identifié, ainsi que 2 empreintes palmaires exploitables et non identifiées également.
Donc, selon vous, la trace, enfin l'ADN ne suffit pas du tout à établir la culpabilité de votre client?
Absolument pas.
Et ce procès en appel, est-ce que vous allez un petit peu réviser vos classiques, si je puis dire, en matière de communication, comme on l'a dit, cette partie très intéressante que vous dites, il y avait une communication impossible, les surmuets, etc., c'est très difficile de se défendre, est-ce que vous allez utiliser cet argument ?
C'est forcément quelque chose qu'on a pu tous constater. Hein. Donc forcément, je pense qu'il n'y a personne qui pourra venir dire le contraire. Le problème, c'est que la majorité des personnes qui seront de nouveau amenées à déposer à la barre seront toujours dans cette même configuration. Trouver une solution à cela,
Ça va être très compliqué, bien sûr. Voilà, cette heure du crime est terminée. Merci beaucoup, maître Caroline Jean et puis maître Gilles Laurent, qui était en ligne ce soir dans l'heure du crime. Merci beaucoup, Tony Poulain. Vous étiez en studio avec nous ce soir pour évoquer l'affaire Caroline Pierson, le crime du silence. Et nous suivrons, bien sûr, avec vous et avec vous, Tony Poulain, le procès en appel qui s'annonce. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Un grand merci à vous toutes et tous d'avoir été fidèles en une nouvelle fois ce soir, à l'heure du crime sur RTL.
Pour écouter RTL, au travail,
sur la route,
dans les transports,
dans votre jardin,
et où que vous soyez,
téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
RTL, toujours avec vous.